dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir à tous ceux qui le connaissent, notamment à travers son grand œuvre, la saga Sambre, lancée en 1986, savent combien les passions du 19e siècle et le romantisme sombre irriguent les œuvres de Bernard Isler. Rien d'étonnant donc à ce qu'il s'intéresse de près à l'œuvre de l'auteur des Fleurs du Mal, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance. Pendant 5 ans, Isler s'est immergé dans les mots et dans la vie de Charles Baudelaire. Il en a fait un album qui restitue le tourbillon intérieur, le destin tragique et l'œuvre sensuelle et sulfureuse du poète dandy et maudit, avec une narratrice au charme vénéneux que l'on n'attendait pas forcément, la Vénus Noire, la muse métisse Jeanne Duval, celle qui lui a inspiré nombre de ses poèmes. Mademoiselle Baudelaire, c'est le titre, sort demain dans la collection Air Libre des éditions Dupuis, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Isler.
Bonjour.
Comment est-ce que vous avez découvert la poésie de Baudelaire ?
Oh, je pense que mon père avait une grande bibliothèque et dès l'âge de 8 ans, il m'emmenait au théâtre et il m'a fait découvrir Shakespeare. Et puis après ça, j'avais accès à toute sa bibliothèque où il y avait aussi bien, si je me souviens bien, le petit livre rouge de Mao, puisqu'on était en 68 à peu près.
Ouais.
Hein, il y avait Sade que je lisais en cachette, il y avait Dostoïevski, il y avait Solzhenitsyn et il y avait aussi Baudelaire. Voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai accédé à Baudelaire. Je pense qu'à une certaine époque, il était un peu maudit. Enfin, on ne pouvait pas vraiment le lire dans le salon.
Voilà, oui, il n'était pas vraiment à l'index, mais après, vous le regardiez comme ça, vous le lisiez un petit peu en cachette, avec l'œil de l'interdit.
Mon père me faisait passer l'idée que qu'il y avait une notion interdite liée à Baudelaire, c'est clair. Et il faut quand même pas oublier qu'il a été censuré en 1857 et qu'il a fallu attendre 1949 pour qu'il soit réhabilité et que l'œuvre des Fleurs du Mal puisse être rééditée sans problème, quoi. Effectivement, quoi. Quelque part, il y a quelque chose de scandaleux, de sulfureux, même, qui traverse le temps. Puisqu'encore maintenant, j'ai essayé de retranscrire, je ne sais pas, l'histoire d'amour entre Jeanne Lemaire et Charles Baudelaire. Et forcément, elle passe par le sexe, une représentation du sexe qui est quand même quelque chose qui est central dans l'œuvre des Fleurs du Mal. Et bien sûr, il y a des gens qui s'en offusquent encore maintenant. Donc c'est clair qu'il touche à quelque chose d'éternel, le péché, l'interdit, quelque chose de sombre, des passions les plus intimes. Et si ça traverse le temps, c'est parce qu'il y a cette dualité, je pense, avec le fait de sublimer cette laideur, ces choses obscènes, et qu'il pose des questions importantes sur l'art à travers.
Et en même temps, on apprend les poèmes de Baudelaire dans les écoles, notamment au collège. Et on se rend compte très vite, d'ailleurs, Isler, que les textes des poèmes, pas toujours en entier, mais certains vers se retrouvent vraiment au cœur de votre récit. Vous dessinez Baudelaire en train de les écrire avec sa plume, en train de les réciter, en train de les imaginer, de les inventer aussi face à la beauté de sa muse. Est-ce qu'on peut dire que la matrice de vos dessins, ce sont les mots du poète eux-mêmes ?
Oui, c'est-à-dire toute l'histoire naît de comment raconter Baudelaire, vu que c'est un monument de la littérature française, qui moi m'intéresse au départ parce que la poésie à 16 ans, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. C'est cette forme de littérature qui ne raconte rien, mais qui fait de l'art pour l'art, où c'est de l'esthétique poussée au point extrême et qui ne parle que de l'amour. Et à 16 ans, à mon avis, on ne pense qu'à ça, et en tout cas, moi, je pensais qu'à ça. Et donc, tout ce qui est poème avait un parfum de sublime. Et au point que une des premières BD que j'ai faites s'appelle Bidouille et Violette, qui est un gros roux qui est amoureux de la fille du fleuriste, et il fait très maladroitement des poèmes de Mirliton, bien entendu, comme moi j'ai offert des poèmes à des jeunes filles pour les séduire. Mais chez Baudelaire, il y a une dimension vraiment largement supérieure à ça, qui dépasse l'adolescence, qui dépasse l'année, et qui fait que voilà, ça m'a resté chevillé au corps, et avec cette question: pourquoi était-il maudit? Pourquoi? Au-delà de l'aspect sulfureux, parce que, bon, moi, mon adolescence et ma jeunesse, c'était quand même la libération sexuelle des années 60, donc tout ça paraissait déjà beaucoup moins sulfureux. Il était interdit d'interdire, on ne voyait plus ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça revient, et à un moment donné, je me rends compte que le petit ami de ma fille, il lit Baudelaire, et que c'est son poète préféré, son auteur préféré. Et je me dis, tiens, mais il y a vraiment quelque chose de, qui traverse toutes les générations, qui est encore présent, et j'ai envie de comprendre pourquoi il est maudit.
Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers, qui circule dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Le sonnet Parfum exotique qui ouvre la section spleen et idéal des fleurs du mal et qui a été inspiré par Jeanne Duval. Jeanne Duval qui est donc votre narratrice ici. Pourquoi elle?
Bon, pour des tas de raisons. La première, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a que des hommes qui ont parlé de Baudelaire? Déjà, majoritairement, oui, je vous réponds.
Oui.
Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce qu'une femme dirait de Baudelaire? Et donc, à ce moment-là, cette question s'est insinuée dans mon esprit. Et je me suis dit, ben oui, il y a cette personnage de la Vénus noire, dont on ne connaît ni la date de naissance, ni la date de mort, qui était détestée par la mère, Madame Oupic, la maman de Baudelaire, et qui porte ce patronyme de Vénus noire, parce que c'est la mère qui lui a donné ça, et qui veut à tout prix la caricaturer, en faire quelque chose d'obscène, de péché, de noir, de scandaleux, bien sûr. Et donc, je me dis... C'est intéressant, un personnage comme ça, dont on ne sait rien, on n'a conservé aucun de ses écrits, aucune de ses lettres. Madame Oupic a brûlé toutes les lettres, tous les écrits qui concernaient Jeanne, elle les a brûlés. Donc, à quoi elle ressemble? Déjà, il faut essayer de voir à quoi elle ressemble graphiquement.
Et il y avait des petits indices quand même sur sa ressemblance physique. Alors, il y a une photo de Nadar qui n'est pas complètement attestée.
À l'époque où j'ai commencé, la photo de Nadar était anonyme. Et donc, on ne savait pas qui c'était. Et c'est moi-même, j'ai remonté le fil de toutes les sources. Et à un moment donné, les descriptions des contemporains et des amis de Baudelaire correspondaient avec cette photo et avec les dessins qu'avait fait Charles dans les bistrots. Charles dessinait abondamment Jeanne. Alors, c'était forcément idéalisé, mais l'un dans l'autre, ça me paraissait crédible. Et donc, j'ai recomposé cette figure du fantôme.
Oui, alors c'est intéressant que vous parlez de fantôme, parce que la dernière scène de l'album, oui, parle d'un tableau, de Courbet, l'atelier de Courbet, exposé en 1855, et on a l'impression que de ce tableau surgit précisément le fantôme de Jeanne Duval, le fantôme de cette Vénus noire.
C'est une anecdote extraordinaire, et je crois que c'est celle-là qui m'a donné envie de faire ce livre. C'est qu'effectivement, Baudelaire est très proche de Courbet, et même que Courbet est assez fasciné par Baudelaire au départ, et qui, comme il est assez ambitieux, il veut faire de son atelier un moment d'histoire et de représentation de toute la société avec l'empereur, les forces du capital, je sais pas quoi, et puis l'art. Et donc il va présenter les gens qui sont le plus importants pour lui et qui lui ont apporté le plus, dont forcément Charles Baudelaire. Et pour lui, il est évident qu'il est indissociable de sa muse, Jeanne Duval, que tout le monde connaît à l'époque. Et comme ça se passe en 1850, et qu'à ce moment-là, Baudelaire vient de se séparer et que ça se passe très très mal dans ses amours avec Jeanne, il va demander au peintre d'invisibiliser Jeanne. Et Courbet va recouvrir la figure de Jeanne d'une couche de fond, comme il y en a d'autres parties dans le tableau d'ailleurs. Hein, il y a d'autres parties qui ont disparu et c'était quelque chose que Courbet pratiquait fréquemment. Il l'avait fait même lui-même pour une femme dont il était amoureux et qui, après la séparation, il l'a invisibilisé aussi. Et donc, ce que Baudelaire demande, c'est de recouvrir. Et ce qui se passe, c'est que donc le tableau à l'exposition 1855 paraît sans Jeanne. Et 40 ans plus tard, à cause de la pigmentation chimique, les composants font que la figure de Jeanne réapparaît. Et donc c'est extraordinaire d'avoir ce fantôme qu'on a cherché à faire disparaître, qui revient, qui remonte à la surface. Et donc rien que ça, c'est déjà un roman.
Voilà. Et vous avez donc voulu faire vivre, rendre encore moins visible cette muse, cette femme. Vous en faites même votre narratrice, une narratrice qui sait écrire, hein, puisque le fil rouge de votre récit qui court jusqu'à la page 143, quasiment la fin de l'album, hein, c'est une lettre que Jeanne envoie donc à la mère de Baudelaire, Madame Opic, peu après la mort du poète. En voici le début.
Paris, les Batignolles, 1er septembre 1867. Madame Opic, où devrais-je écrire aujourd'hui Madame Baudelaire du Faïs, du nom de votre premier mari ? À vous, je peux le dire, madame, qui me demandez qui je suis pour oser vous réclamer un héritage. De m'avoir croisée de rares fois, vous espérez sans doute pouvoir encore m'ignorer. Mais au risque de paraître orgueilleuse, aucun lecteur des Fleurs du Mal n'oubliera la Vénus Noire de Charles Baudelaire, la muse immorale, damnée, du plus grand poète maudit. Oui, c'est moi. La belle ténébreuse, cette chair indolente qui marche en cadence, belle d'abandon, comme un serpent qui danse. La fille des colonies, l'esclave créole, la mulâtresse, la béatrice, la charogne. La tristesse beauté, la reine des cruelles, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs minuits. Celle qui noyait sa nudité voluptueusement dans les baisers du satin et du linge, et lente ou brusque, à chaque mouvement, montrait la grâce enfantine du singe. Savez-vous pourquoi mon poète amoureux m'a si souvent masqué, déguisé, caché, dissimulé ? Ce mystère entretenu, et même chanté dans tous ses poèmes maudits, sous forme de métaphores et d'allusions choisies, avait pour but de me protéger, moi de vous, et lui de moi.
Cette lettre, Isler, de quoi vous êtes-vous inspiré pour la faire naître ? Des poèmes, c'est sûr, on a reconnu un certain nombre de titres, évidemment, des oui. poèmes des Fleurs du Mal, un certain nombre de vers aussi, mais comment vous l'avez composé, cette lettre ? Comment vous avez pu mettre vos mots dans, pas dans la bouche, mais dans la plume de Jeanne ?
Il m'a fallu du temps pour oser, honnêtement, parce que faire revivre un personnage déjà comme Baudelaire, qui parle si bien et qui était connu pour parler si bien et qui écrit divinement, c'est très difficile d'imaginer qu'il peut dire. Et donc j'ai pris le parti assez vite d'essayer de sourcer tout ce qui est dit. Donc tout ce qui est montré et qui est dit comme situation a une base biographique. J'ai jamais essayé d'inventer quelque chose que j'aurais imaginé par extension. Non. Tout a une source, des contemporains, des lettres de Baudelaire à sa mère, etc. Mais Jeanne, voilà, le fruit des recherches, d'essayer de comprendre des passages répétitifs de tous les biographes de Baudelaire et d'essayer de les voir différemment sous un angle actuel. On se doute bien que au 19e, en plein 19e, avant la Révolution, au moment de la Bohème, tous ces jeunes gens qui sont tous des gosses de riches, faut-il le dire, qui se fréquentent, qui flambent, qui sont une forme de jeunesse provocante, etc., fréquentent des femmes, se les échangent, et il y a une forme de, en tout cas au regard d'aujourd'hui, très très misogyne, très très raciste aussi, puisque l'Empire français a des colonies avec de l'esclavage. Voilà, l'abolition de l'esclavage, c'est Victor Schœlcher en 1849, donc voilà, on n'y est pas encore. Donc il y a un rapport comme ça qui est dominant, on va dire, et c'est pas un hasard d'ailleurs si Charles choisit Jeanne comme maîtresse. Il est évident qu'il est en réaction vis-à-vis de sa mère, qui vient d'un milieu bourgeois. Il est catholique, il a été vraiment éduqué dans la religion, et il sait que ça rend furax sa mère. Il y a de ça que ça joue, quoi. Et voilà, ça donne déjà envie de donner de la chair à ce personnage. Et comme cette personne est Vénus Noire, il y a des descriptions, mais qui sont en général assez méchantes. J'essaye de les comprendre, j'ai besoin de la dessiner. Il y a ce corps qui prend toute la place.
Alors justement, elle dit elle-même, hein, les femmes comme moi, de toute façon, se nomment par leur corps. Parce que c'est une femme qui a l'habitude des hommes.
Tout simplement, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. À l'époque, comment est-ce que vous avez imaginé le corps de Jeanne Duval ? Alors, elle a des grands yeux noirs absolument magnifiques, de grands yeux noirs qui versent des flammes, chevelure crénelée, ses bijoux d'or qui mettent en valeur la couleur et le grain de sa peau.
Des yeux comme des soupières, ça c'est important. Et quand on voit, c'est ça qui m'a fait... pour ma part, authentifié cette photo de Nadar. Je me demandais ce que ça voulait dire, des yeux comme des soupières.
Oui, j'allais vous poser la question. Oui.
Et j'ai mis un temps à imaginer que ça pouvait être comme une soupière, c'est-à-dire qui sorte un peu, et avec des lourdes paupières qui retombent et qui ne laissent passer qu'une seule fente. Et donc, il y a un regard qui est forcément lourd, ténébreux et fascinant, et en même temps, dont on n'arrive jamais à saisir l'expression, qui est un peu celle du sphinx, et auquel Baudelaire réfère souvent Jeanne, quoi.
Et puis, il y a aussi les courbes de son corps, et il y a deux cases très... très étonnante, un peu provocante aussi peut-être, Isler, deux cases qui se suivent en bas de la page 57, où ben, vous faites le parallèle entre le déhanché de Jeanne et un Christ crucifié.
Oui, d'abord parce que cette peinture est une peinture de Bassano et qui est des toiles pour lesquelles il s'est endetté sans doute à vie. Et donc j'ai choisi cette toile-là de Bassano parce que ça allait bien dans le sens de l'imagination de Baudelaire qui s'est toujours entouré de peintures, qui a acheté des peintures très chères et qui aimait les peintures religieuses d'une certaine manière. Il a un père qui lui-même était curé et qui était artiste, et donc quelque part il en a fait une synthèse dans une forme de religion de l'art. Il s'entoure d'images et c'est vachement important. Et comme sa notion du corps est quand même, il a un rapport au corps qui est dominant dans sa relation avec Jeanne, en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir à travers ses poèmes, pour des tas de raisons. Il fait 1m58 peut-être, et elle fait certainement 1m80, donc si on imagine l'un en face de l'autre, on comprend qu'il écrit la géante. C'est évident, il est à hauteur des seins. Et donc il y a un rapport au corps qui est bizarre et qui est aussi dans la souffrance, qui n'est jamais tout à fait dans le plaisir, puisque je lis ailleurs que il dit assez facilement que l'amour physique ressemble pour lui à une opération chirurgicale, quoi. On peut pas dire qu'il avait du plaisir à ça. Donc il devait être certainement dans une forme de voyeurisme, de contemplation. Parce que toute la poésie de Baudelaire, est très concrète. Elle est pas abstraite avec des idées sublimes. Non, c'est des choses concrètes. Et il va créer des analogies. Il fait appel à ses sensations. La nouveauté qu'apporte Baudelaire dans la poésie, c'est justement de faire appel à l'intime, à ce qu'il y a de plus profond en lui. Et la sexualité a ça. C'est qu'elle a quelque chose d'extrêmement intime qui fait partie des émotions les plus fortes, des sensations les plus fortes. Et en plus, les plus tabou. Et donc Jeanne va bien incarner ça, et sans doute que oui, elle avait un comportement volage, si on peut dire. Peut-être, il est clair que moi qui ai connu les années 70 de la libération sexuelle, c'était pas rare d'avoir une femme qui sorte avec plusieurs des copains, et on les appelait pas des putes. Mais à l'époque, au 19e, il est probable. Alors, prostituée, non, on disait lorette. Lorette, c'est une catégorie de femmes qui sont entretenues et qui ont plusieurs amants. Oui, si ça c'est prostituée, mais il y a la pierreuse au 19e qui elle fait 150 passes par jour, et puis il y a la courtisane qui elle c'est la cocotte qui ruine les riches et qui peut-être ne consomme jamais. Voilà. Et donc est-ce qu'elle était vraiment prostituée? Moi je pense que c'était comme beaucoup de modèles de féminins ou de comédiennes qui fréquentent des actrices, voilà, qui fréquentent des jeunes artistes, qui s'envoient en l'air comme nous dans les années 60, quoi, je veux dire.
Que j'aime voir, chère indolente, ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau.
Le magazine que vous allez suivre, c'est une rediffusion
profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. Apparaissent la tête d'enfant se balance avec la mollesse.
C'est François Feldman qui reprenait ainsi Le serpent qui danse de Baudelaire en 1991, un poème inspiré par Jeanne Duval, qui est donc votre narratrice Isler dans cet album Mademoiselle Baudelaire chez Dupuis. On retrouve les vers de ce poème dans vos cases, on retrouve l'image du serpent également à travers l'album. Les mouvements de la Jeanne Duval que vous dessinez, ce sont les mouvements d'un serpent. Un serpent qui danse.
Disons que Charles, forcément, faisait l'apologie du corps de Jeanne, et la plupart de ses poèmes parlent plus du corps que de la tête.
Absolument. Hein,
c'est assez évident. Et qu'il y a, comment dire, je sais, comment ça ? Je sais pas.
Vous ne savez pas. Comment est-ce que vous avez appréhendé le corps de Jeanne? Parce que vous la dessinez de façon très lascive. Hein. Il y a des scènes qui tutoieraient la pornographie si elles étaient gratuites, ce qu'elles ne le sont pas.
Elle
est belle, elle s'exhibe, elle adopte des positions très très provocante, elle montre son sexe rouge qui va devenir une rose entre ses jambes, la fleur du mal, quoi, tout simplement.
Oui. C'est-à-dire que dès le début, il y a une phrase qui m'a accroché. Moi, j'ai chaque fois dû sourcer. C'était vraiment presque un travail d'historien où je lis et je relis les mêmes séquences que je connais de la biographie qui se trouve dans toutes
les
biographies.
Même graphiquement, rien n'a été fait au hasard.
Rien n'a été fait au hasard. Tout est sourcé, même au niveau des documents. Ce que je n'ai pas, je ne le montre pas. Je me suis interdit de rajouter des passages que je ne connaissais pas. J'essaye de montrer le café Momus comme il était. Et de la même manière, quand à un moment donné, je me dis, personne ne sait qu'est-ce qui s'est dit entre Jeanne et Charles. On sent qu'il y a une histoire d'amour torride, mais on sait presque rien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, il y a les poèmes. Et j'essaye de lire les poèmes vraiment dans le détail cru. Et je me rends bien compte que c'est pas un hasard s'il a été censuré pour pornographie, outrage aux bonnes mœurs et tout. Parce que oui, les fleurs du mal, qui auraient dû s'appeler les lesbiennes au début, quelque part, c'était plus qu'une provocation, parce que Jeanne Duval, elle était lesbienne, elle avait des amours saphiques, et Baudelaire était certainement un voyeur. Eh bien, il faut partir des poèmes pour essayer de dessiner. Et on se rend bien compte que là, je dois dessiner du sexe. Et voilà, ça prend toute la place. Et quelque part, elle se définit là-dedans. Mais quand je lis cette anecdote que Nadar demande à Jeanne, parce que Nadar, c'est le premier amant de Jeanne, avant Charles, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Charles? Et qu'est-ce qu'il fait avec toi? C'est vraiment une jalousie de jeunes ados qui dit, comment t'as couché avec elle? Et Jeanne répond, il fait des vers. Effectivement, Baudelaire, souvent, et ça il y a plusieurs témoignages là-dessus, lisait ses poèmes à Jeanne. Est-ce qu'il faisait plus que ça? Personne ne sait.
Mais on la sent frustrée.
Mais on devine que nécessairement, si elle a pris autant de place dans les... Elle a certainement dû jouer avec ça, et que c'est devenu une forme de jeu entre eux. Et on comprend bien, quand on a un peu d'expérience, que ce genre de jeu où on provoque l'autre et où on provoque le désir, on joue sur la frustration, on mène à des séquences qui peuvent ressembler à ce qu'il décrit dans Le Vampire et des choses comme ça, où cette femme devient un monstre qu'il est et qu'il adore comme une déesse, qui ne dit jamais un mot, qui ne parle pas et qui est comme un sphinx, qui le fascine, qui le terrifie. Une image de la femme affolante et qui lui, voilà, il va la provoquer aussi, et c'est sans doute ça. Donc, elle a participé à ça. Leur rapport était un rapport sexuel, c'est une évidence, et il m'a fallu le dessiner. Voilà. Et là, j'avoue qu'au départ, je ne voulais pas faire de sexe, moi.
Vous vous êtes fixé des limites? Ou pas du tout?
Au niveau du sexe?
Du caractère explicite?
Non, parce que je suis parti notamment d'un moment où Baudelaire raconte des rêves qu'il a fait. Et donc je pars de ça. Et je peux imaginer que le sexe où son sexe se transforme en forme de serpent, il avait pris des substances hallucinogènes. Et donc on est dans un, est-ce que c'est réel, est-ce que ça l'est pas, peu importe. Non, je n'ai mis jamais aucune limite. J'ai dessiné des choses que j'avais jamais faites, que j'aurais jamais osé, que je trouvais abominablement laides, comme une éjaculation faciale. Des choses comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer de le dessiner. Et c'est là que je touche, à mon sens, à ce qu'il y a de plus proche à Baudelaire. C'est le fait de faire d'une charogne puante un exercice de poésie. Et donc, moi, une éjaculation faciale devient, à mon sens, quelque chose qui n'est pas... Il est provocant par le sujet, mais il est intéressant pour ce qu'il dit de la relation entre eux. Et c'est ça qui m'importait. Et jamais, jamais, l'éditeur n'a fait le moindre retenu en disant tu crois non, pas que ça a choqué.
Là, ça va non. trop loin. Non, jamais ils vont jamais voilà. on vous a dit ça. On va parler de l'affaire Run dans un instant, mais un petit mot d'un autre personnage très important dans l'album, mais très important aussi pour Baudelaire, c'est le chat.
Oui, il y a. On demandait pourquoi j'ai représenté le serpent ou le chat, mais ce sont des associations d'images qui va projeter. En fait, Baudelaire ne parle pratiquement jamais du nom de Jeanne. Il l'emploie tout le temps il l'appelle le serpent, il l'appelle mademoiselle, surtout mademoiselle, de la même manière que lui, qu'elle lui dit monsieur. Elle ne l'appelle pas autrement parce que c'est un homme, un jeune fils de riche la première fois qu'elle le rencontre. Voilà, c'est monsieur. Il est bien habillé, il a des chemises blanches, c'est un dandy. Il est certainement quelque chose qu'elle n'a jamais rencontré, des jeunes aussi riches. Il était vraiment riche hein, quand il était jeune, il a flambé pour elle, quoi. Voilà. Donc il va la nommer autrement, il l'appelle effectivement le serpent. Et le chat, bon, c'est plus évident, évidemment, le rapport entre le sexe féminin et le chat. Et oui, Baudelaire a toujours adoré les chats, c'est vrai. Il y trouve le même rapport de fascination et de méfiance, parce que le chat nous échappe, nous hypnotise, et en même temps, il y a une cruauté propre au chat. Voilà, tout ça est projeté sur Jeanne Duval, et c'est à travers ça qu'on peut imaginer leur relation, pas forcément qui elle est.
Alors pour poursuivre avec le bestiaire Isler, il y a aussi ce corbeau que oui. vous dessinez page 27 quand vous racontez les obsèques de la petite sœur de Charles. À ce moment-là, il est encore enfant. Corbeau que la mère confond avec un albatros. Donc là aussi, clin d'œil au poète, hein, le prince des nuées, voilà. Les ailes de géant l'empêchent de marcher. Et le corbeau croasse, jusqu'ici rien que de très normal. Et il croasse, un mot anglais, il croasse Nevermore. Alors là, on a un deuxième clin d'œil dans la même page, clin d'œil à Edgar Allan Poe. Vous nous expliquez?
Bon, c'était bon. Comment expliquer ça? Baudelaire connaissait l'anglais parfaitement par sa mère, et donc il a découvert Edgar Allan Poe et The Raven, le corbeau, dès sa parution.
Il a traduit.
Il l'a découvert d'abord en anglais, et il a voulu le traduire pour le donner au public français. Et donc il s'est donné cette tâche à un moment donné de le traduire. Et quelque part, il dit c'est mon frère en littérature. C'est vrai, il l'a écrit. Il sent il trouve chez des inspirations chez Poe qui lui ressemblent. Il dit c'est étonnant. Il y a cette cette tendance à l'alcoolisme, bien sûr, un côté un peu maudit. Et il projette là-dessus une image qu'il ressemble. Et donc ça devient une obsession de le traduire. Il le fait avec autant de perfectionnisme que ses poèmes ou ses critiques picturales, quoi. Et voilà. Donc, oui, Edgar Allan Poe, à un moment donné, représente beaucoup pour Baudelaire. Il cherche à le rencontrer même. Puis bon, voilà, Poe meurt très jeune. Et puis, ça s'arrête là, quoi.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous épanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Oui, lequel vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Une charogne, le poème des fleurs du mal, chanté par Léo Ferré dans VMDN sur RFI. Alors, Isler, cette charogne, elle se trouve évidemment dans votre album. Vous la dessinez sur plusieurs cases, hein, et vous faites sortir une strophe du poème, d'ailleurs, de la bouche de Baudelaire. La scène se passe pendant une promenade entre le poète et Jeanne Duval, qui est beaucoup moins fascinée que son amant par la charogne. Elle pose même un mouchoir sur sa bouche. Cette charogne et ce poème, il pose évidemment la question du beau. Vous avez forcément réfléchi à cette question, Isler. Pour vous, c'est quoi le beau ?
Le beau est toujours étrange, c'est Baudelaire.
Bizarre même.
Bizarre, c'est vrai. Le beau est toujours bizarre comme la chanson. C'est vrai, c'est plus le beau est toujours bizarre. La charogne, c'est sans doute le plus beau poème de Baudelaire, à mon sens. C'est là où la poésie trouve son expression ultime et qu'elle fait la charnière entre la poésie ancienne, l'ancien régime, toute l'histoire de la peinture, des dieux, de l'Olympe, de tout ce que peignaient les peintres pompiers de l'époque, et puis même David et les précédents, on représentait le corps nu sous les formes de déesses de l'Olympe, ça on avait le droit, le reste on pouvait pas. Et puis l'art moderne qui est cette destruction du code de la beauté, puisque la beauté était enseignée dans les académies, il y avait un dictionnaire du beau, de ce qui était beau, de ce qui ne l'était pas. Et quand Baudelaire parle de cette charogne de puante qui représente la mort et qu'il imagine qu'elle vit encore à cause des vers qui mangent la chair, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, puisque c'est vraiment cette manière de pouvoir sublimer le pire, l'intérieur, et d'en faire une peinture qui nous fait vibrer et qui compare en plus avec cette méchanceté, cette cruauté et en même temps cette émotion ultime où il parle de la mort de son aimé et qu'il en fait quelque chose de si beau, si tragique, indéfinissable, qui nous dépasse au niveau, qui est au-delà de la morale. On appelle
alors
ça...
Alors pour vous, oui. C'est quoi le beau ? Parce que vous répondez à ma question, mais presque d'une façon poétique, d'une certaine façon, Isler.
Le beau,
pour le dessinateur que vous êtes.
Le beau est un mot interdit au XXe siècle dans toutes les académies. Il n'y a pas un seul artiste qui va vous dire ce qui est beau. On n'ose plus.
Mais c'est pas grave, on est au XXIe siècle maintenant.
Et au XXIe encore plus. Il y a peut-être que les Américains qui parlent encore de la beauté et ça se confond aux actrices d'Hollywood pour eux. Mmh. Le beau est souvent, la beauté c'est souvent une femme qui séduit. Voilà. En peinture et dans le cas de Baudelaire, et là je rejoins, et c'est sans doute pour ça que j'aurais fait ce livre rien que pour cette séquence. Parce que, à un moment donné, la beauté, c'est cette manière de sublimer le péché. Je suis aussi, moi, un catholique, qui ai été éduqué à la religion catholique. Et quelque part, ce qui m'a le plus fasciné, la plus grande découverte que j'ai fait en analysant la vie de Baudelaire et tout, c'est que oui, c'est un catholique qui ne croyait pas en Dieu, mais qui a découvert la puissance du diable. Et qui dit que il y a une forme de fascination, un peu comme Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Bien sûr, il y a de ça déjà. Mais c'est aussi cette ouverture au fait que, le beau est dans la laideur, c'est l'humain, voilà, c'est l'humain dans tout ce qu'elle a d'horrible, et que bien sûr on peut pas se contenter, et là à cet égard il est très différent de Courbet, parce qu'au même moment Courbet le suit au départ et puis s'en distancie, et Courbet il est réaliste, il est politique, c'est un gauchiste qui veut montrer la beauté du peuple qui travaille, de la sueur, etc. Mais c'est réaliste, et pour Baudelaire ça n'est pas suffisant, parce qu'il manque cette forme de spiritualité, que de poésie, mais c'est au-delà de la poésie, c'est quelque chose, ces émotions de grâce que tout le monde peut rencontrer et qui sont toujours mélangées à l'horreur.
Et quand vous avez votre crayon, votre pinceau à la main, vous pensez à ça, justement, vous visez cette sublimation-là ?
Je ne le pense pas, je le vis. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai un dessin où je dessine de l'intérieur. Quand je dis que je dessine l'intérieur, je dessine toujours, dans n'importe quel BD, mes personnages nus. Et je les dessine gros, avec leurs bourrelets, avec les pires excroissances, avec des boutons, avec etc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est la chair humaine, dans ce qu'elle a de pire, et en même temps, dans ce qu'elle peut produire de meilleur. Là, il y a encore un espoir. Voilà, Baudelaire offre de l'espoir. Il ouvre la porte à la peinture moderne qui ne représente plus les dieux, qui ne cherche plus à faire, je ne sais pas moi, une bonne publicité pour la France, parce que le salon de peinture de l'époque, avec ses Vénus qui sortent des eaux, c'est des formes de publicité pour l'amour à la française. Lui, il montre une carcasse et qui préfigure Bacon qui va nous peindre des chairs sanguinolentes. Il nous prépare aussi à cet art du XXe siècle qui pose la question, c'est quoi là? À quel moment on peut dire que c'est beau? Eh bien, c'est une forme d'émotion indescriptible, et c'est sans doute pour ça qu'il y a tant d'artistes qui la cherchent.
Quelle technique graphique utilisez-vous, Isler? Parce qu'on a l'impression d'une grande diversité de textures. Parfois, vous gardez des traits de crayon apparents. Parfois, on a l'impression d'être en couleur directe. Vous êtes en même temps un pionnier du numérique aussi. Quels sont les outils que vous avez utilisés pour cet album-ci?
Pour cet album-ci, j'ai essayé de dessiner l'histoire avant de l'écrire. Je n'avais pas le temps. Donc j'ai dessiné les séquences et le dessin posait les questions auxquelles je répondais. Donc je n'étais pas dans une démarche à vouloir faire beau ou esthétique. J'essayais de raconter. Et donc le crayon sur du Bristol, c'est, il y a rien de plus rapide, et c'est plus rapide qu'une tablette numérique. Et après ça, avec ces crayonnés qui sont un peu comme des tournages de scènes au cinéma où on fait bouger les acteurs, et mon acteur c'était Jeanne, et mon actrice c'était Jeanne, et l'autre c'était Charles, et puis je les mettais ensemble, je voyais si ça fonctionnait. Je crois fort à la vérité du dessin. Si j'arrive à le dessin, que ça produit quelque chose d'indéfinissable qui me paraît juste, eh bien c'est que ça raconte l'histoire, et les textes se rajoutent après. Et je faisais la mise en scène après, en scannant chacun des crayonnés, et en les intégrant dans une trame de mise en page, et pour faire le récit. Et donc le récit est né par des dessins, et donc à un moment donné, bah oui, d'abord il était prévu au départ de faire 100 pages, puis ça... Voilà, la matière était là, il y avait cette inspiration, j'avoue que j'ai pris j'étais habité, il y avait le confinement aussi, il y a tout qui a joué.
Mais cette texture, justement, comment est-ce que naît ce relief d'une certaine façon à travers la page?
C'est sans doute la multiplicité des couches. Et qu'à un moment donné, vu le temps qui reste, je me dis, ce qui compte, ce n'est pas d'essayer de faire beau, c'est pas d'installer un système graphique, c'est qu'est-ce que je veux montrer au lecteur? Qu'est-ce qui est important? Quand il y a une scène au tout début où il y a Jeanne et Charles qui sont dans le lit et puis ils se parlent et tout. Et là, je dessine Jeanne, elle est nue, etc. J'aurais pu faire des modelés très, très séduisants. Non, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, après ça, on s'approche et ça devient une évocation de l'origine du monde de Courbet, et avec une fleur à la place du sexe. Et là, il est important que ça prenne une place et une présence, de la même manière que les couleurs, les matières vont... Mais toute la poésie de Baudelaire, c'est ça, c'est des sensations, et je les ai retrouvées sans me préoccuper d'être vraiment cohérent. L'important, c'était d'avoir des rimes. Et j'ai découvert le plaisir de faire une histoire dont tout le monde connaissait la fin. Tout le monde sait que Baudelaire était syphilitique et qu'il en est mort. Qu'il est mort de cette manière-là. On commence par la fin au cimetière, déjà. Voilà. Donc, il n'y avait pas de gros suspense. Par contre, il y avait des rythmes qui se sont installés. Comme si le sens, parfois d'une vie, prenait dans des résonances rythmiques. La malédiction, c'est peut-être une succession de répétitions, mais le bonheur aussi, ou l'amour aussi, c'est une succession de répétitions, et l'acte sexuel est vraiment très répétitif. Hein. C'est je rentre, je sors, je rentre, je sors. Globalement, c'est ça. Donc cette rythmique s'est installée, et elle était parfois graphique, parfois... Voilà, c'est une expression, j'ai pas cherché à faire beau, j'ai juste essayé de raconter l'histoire comme ils faisaient ses poèmes.
Et pour la couverture, Isler?
Oui.
Comment est-ce que vous l'avez composé, cette image de couverture sur laquelle on voit Baudelaire et on voit aussi sa muse qui sort par sa tête, qui sort par son esprit, qui est un peu à la fois très présente et en même temps un peu évanescente?
Une image, ça vient en la faisant. Il n'y a jamais de projet, d'intention qui puisse déterminer de faire une bonne image. Il faut le faire. Et c'est en dessinant que les choses apparaissent. Moi, j'appréhende le monde et j'appréhende les humains en les dessinant. Mais ça va très loin. Je ne comprends le monde qu'en le dessinant. Et en le dessinant, voilà. Et à un moment donné, je sais ce que je veux. Et le dessin n'est pas forcément fini, d'ailleurs. Là, la couverture, c'est difficile de faire, d'exprimer le rapport entre Jeanne et Charles comme ça en un seul dessin. J'en ai fait des tas, des dessins. Et à un moment donné, une petite magie qui se produit, vous dites, ah oui. Et c'est ça qui est bien. C'est quand il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de discours. C'est comme la poésie de Baudelaire. Moi, j'ai pas la théorie pour expliquer ce en quoi c'est si magique. Et comment ça se fait que 200 ans après, tout le monde reste encore, emporté. Moi, quand je lis La Charogne ou d'autres, je veux dire, j'ai des frissons. Comment il fait ?
On est plus de deux siècles après, effectivement, vous le disiez, Isler. Un petit mot quand même aussi de votre passé sombre, si oui. J'ose dire. Vous vous sentez pleinement l'enfant de cette époque-là, l'enfant de cette de ce 19e siècle-là. Vous auriez aimé être des leurs, aller vous attabler avec Baudelaire, Nadar, Nerval et les autres?
Franchement, je crois pas, non. Je suis arrivé au 19e siècle, je dirais pas par hasard, mais presque, quoi. Je veux dire, j'ai eu des tas de lectures du 19e, j'ai lu tous les grands auteurs de l'époque, ça c'est sûr. Mais j'ai choisi au départ le 19e parce qu'il y en avait pas en BD. Et que ça me paraissait un trou noir intéressant.
C'est étonnant, ça, quand même, le romantisme. Tous ces romans qui sont nés à cette époque-là, les romantismes, parce qu'il y en a plein d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est un petit peu charnière.
Baudelaire, oui. Est-ce qu'il est romantique? Je suis pas sûr.
Il annonce le symbolisme, disent certains. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu de symbolisme aussi dans votre dessin.
Oui, certainement.
Oui.
Donc je sais pas si je suis que romantique. Oui, j'ai aimé le romantisme allemand. Il y a une violence chez Baudelaire, quelque chose de Eros Thanatos, la mort. Le romantisme, c'est la mort, cette attirance pour la mort. Oui, là je l'ai découvert. Cette question de la mort m'obsède et obsède à mon avis tous les dessinateurs quand on dessine un corps vivant. Eh bien je vais vous dire ce que vous voyez, le cadavre de votre mère, c'est quelque chose qui vous relie à pourquoi vous dessinez. Parce que le corps, quand il est cadavérique, il se fige et que la vie disparaît. Et que toute la question de dessiner un corps, ce n'est pas de croire qu'on puisse toucher à une perfection du corps. Le corps n'existe et n'est beau que dans le mouvement. Et le mouvement est quelque chose d'imparfait. Et quand on a vu ça, voilà, sans doute que cette volonté de dessiner, et que c'est vrai que c'est une question qui s'est énormément posée au 19e, et que c'est vrai que l'art du 20e siècle... Eh bien, au niveau du figuratif, en tout cas, s'il m'a passionné parce que j'ai eu des tas de cours et qui posaient questions fondamentales, mais quelque part, il s'est peut-être prolongé en bande dessinée, et là où il y a des gens encore qui interrogent cette figuration et cette représentation qui est différente que la photographie, qui est juste l'inverse, la photographie, c'est en bande dessinée qu'elle se passe. Donc voilà, il y a peut-être une forme d'adéquation naturelle.
Merci beaucoup, Isler, d'être passé nous voir dans VMDN. Je rappelle que votre album est absolument superbe. Vraiment, il faut le lire, le relire, il faut le feuilleter ici. Il faut s'y plonger de façon à capter justement cette sublimation, pour reprendre le mot que vous avez employé, du personnage, de l'œuvre, des mots, de la poésie de Baudelaire. Votre album, donc, Mademoiselle Baudelaire, de la collection Air Libre des éditions Dupuis. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et si on vous demande de citer 10 auteurs de littérature, je parie que les hommes vont surgir dans votre esprit beaucoup plus vite que les noms des femmes. C'est pour inverser cette tendance que Sarah Sauquet, enseignante, publie un texte, une femme, chez Libris Ferra, une anthologie de textes exclusivement féminine. Amélie Beaucourt l'a rencontrée pour nous.
365 textes pour les 365 jours de l'année par des autrices connues ou méconnues. Sarah Sauquet a eu cette idée après la publication d'un précédent ouvrage.
En 2019, j'ai publié un dictionnaire des prénoms littéraires aux éditions Le Robert. Je me suis rendu compte que beaucoup d'héroïnes de la littérature n'avaient pas de prénom. Donc ce constat m'a poussé à m'interroger sur l'invisibilisation des femmes en littérature. Et j'ai souhaité, donc, après ce projet sur les prénoms, me pencher sur les femmes de lettres, mais pas seulement au sens littéraire, mais toutes les femmes auteurs ou autrices qui pouvaient avoir laissé une trace écrite de leur travail.
Outre les grandes femmes de lettres comme George Sand ou la comtesse de Ségur, on retrouve également des reines, des infirmières, des sages-femmes, des journalistes, des militantes ou encore des artistes, une hétérogénéité qui permet surtout de varier les thématiques de ces textes.
Ce qu'on constate encore beaucoup, c'est que quand on fait étudier les femmes à l'école, ce sont encore beaucoup des textes sur l'amour. Je pense à la princesse de Clèves. Il y a aussi d'autres auteurs qui ont une vraie voix, comme Duras ou Yourcenar, mais ça reste des cas, à mon sens, minoritaires. Et ce que je voulais donc vraiment montrer avec cet ouvrage, c'est mettre en valeur des femmes qui ont écrit sur des thématiques personnelles, fortes, mais politiques, sanitaires ou sociales.
Selon une étude menée en 2013 par le centre Hubertine Auclert sur les manuels scolaires, seulement 5% des textes étudiés en classe de seconde ont été produits par des femmes. La volonté de Sarah Sauquet n'est pas de faire étudier exclusivement des autrices, mais plutôt de rééquilibrer la balance et de sortir des préjugés littéraires.
Je suis la première à ne pas vouloir étudier les femmes pour les femmes. Et si vous me demandez mon panthéon personnel, je ne vous citerai pas que des femmes, et en tant qu'enseignante, je ne fais pas étudier que des femmes. Je refuse de rentrer dans ce systématique. Voilà. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'il y a d'écriture féminine. Si on lit un roman, par exemple, comme Frankenstein de Mary Shelley, qui est un roman d'épouvante et très noir, si vous le prenez comme ça, vous n'avez aucune idée de est-ce que c'est un homme ou une femme qui l'écrit. Quand Maupassant écrit une vie et qu'il rentre dans la tête de son héroïne Jeanne, c'est très bien vu, c'est très touchant, c'est très travaillé. Je pense aussi à Flaubert et Madame Bovary. Pour moi, il n'y a pas d'écriture masculine ou féminine.
Parmi les 110 autrices qui figurent dans cette anthologie, l'enseignante avoue elle-même qu'elle n'en connaissait de nom que la moitié avant de faire ses recherches. Des Anglaises, des Américaines, Tahitiennes, Espagnoles, Québécoises, elles viennent de tous les continents, mais pour des raisons de droit d'auteur, on retrouve beaucoup de Françaises, comme celle-ci qui l'a particulièrement marquée.
C'est Madeleine Pelletier, première psychiatre française qui a beaucoup écrit sur l'émancipation sexuelle des femmes dans les années 1925-1930. C'est des textes d'une modernité folle sur l'avortement, les féminicides, la fréquentation des cafés, avec une plume très moderne, très efficace et en même temps très humble. C'était un vrai personnage qui s'habillait en homme, qui soignait les gens dans Paris en pleine rue, qui se baladait avec un revolver pour pas qu'on l'agresse. Enfin, c'est tout un personnage, Madeleine Pelletier.
Le choix de l'éditeur n'a pas non plus été laissé au hasard.
Leur souci, c'est de créer de beaux ouvrages avec vraiment un beau pelliculage. Ça se voit quand on manipule leurs livres. Et je souhaitais aussi travailler avec eux parce que Libris Ferrat a une vraie politique écologique. Ils impriment à la demande, ce qui permet de ne pas envoyer les livres au pilon et d'avoir une vraie maîtrise de la chaîne du livre. Et puis, ils font aussi travailler l'ESAT, qui est une structure qui fait travailler les handicapés. Donc, c'est une maison avec des valeurs qui me touchent.
Cette anthologie existe aussi à travers une application qu'elle a lancée avec sa maman, ingénieure, et qui est à télécharger sur smartphone et sur tablette.
Amélie Beaucourt pour VMDN. Dans un instant, donc, l'info sur RFI. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
RFI, la sélection.